Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors nous nous retrouvons lors de l'épisode numéro 2. Nous avons beaucoup parlé du judaïsme tel que vous le viviez dans la cellule familiale, si l'on peut dire. Une cellule familiale qui explose une seconde fois avec une tentative ratée, il faut bien le dire, de réconciliation de la part de votre mère.
Oui. Dans cette vie qui s'est organisée un peu, qui s'est structuré tant bien que mal à Cagoule, un jour apparaît ma mère, que je ne connaissais pas bien. C'est très curieux cela, mais ce divorce qui a été dramatique, dont je n'ai jamais compris ni les raisons, ni la gravité de cette rupture entre les deux parents, et dont certainement il est difficile de décrire la catastrophe que ça représente pour un enfant, même si le divorce est devenu une chose banale aujourd'hui, réapparaît cette femme qui était une femme vivante, chaude, aimante, et qui vient chercher, si je puis dire, son homme. Je pense qu'elle l'aimait, je pense qu'il y avait encore de l'amour entre les deux. Et elle vient à Cagoule, elle s'installe dans la maison, et mes parents ont l'air de reprendre cette vie.
Votre sœur n'est pas là.
Non, elle l'a laissée probablement chez ses sœurs ou ses parents. Et donc, je commence à avoir une sorte de vie familiale pour les autres, donc la cellule. Parce que vous savez, dans ces petites communautés, le divorce, tout ça, c'est des choses que les gens n'acceptaient pas très bien, à ce moment-là surtout. Et donc, voilà, je me trouve de nouveau un enfant, plus grand, conscient cette fois-ci, entre les deux parents. Et avec toutes les apparences d'un amour retrouvé, et moi je pensais aussi pouvoir retrouver l'amour pour ma mère, ou du moins l'amour de ma mère pour moi. Mais en fait, elle est venue pour mon père. Et ce fragment de vie familiale, le seul que j'ai connu d'ailleurs de ma vie, enfin, avant de marier moi-même, m'a laissé une impression très forte, parce que c'était pour la première fois que je connaissais l'amour, enfin l'amour pour ma mère, l'amour pour mon père. Mais ça n'a duré que très très peu de temps, parce que tout de suite ont commencé entre eux les chamailleries, les revendications, les reproches. Et cette séparation, que je ne savais pas en être une, s'est produite au cours d'un voyage, enfin une sorte d'excursion que nous avons fait dans le delta du Danube. C'est aussi un des souvenirs les plus extraordinaires, parce que le delta du Danube est une sorte de mélange de populations, d'eau et de terre, d'animaux, de poissons, de roseaux. Et je me souviens de ce dernier voyage que nous avons fait à trois. Et moi, je pensais être le prince, si vous voulez, de ce couple. Et nous sommes rentrés, et ma mère est partie, et puis je ne l'ai pratiquement plus vue pendant 20 ans.
Mais ce qu'on sent de toute façon dans vos propos, c'est que L'enfant que vous êtes a de toute façon du mal à trouver sa place, du mal à trouver sa place auprès du père quand il vit seul avec le père et du mal à trouver sa place au sein même de sa famille, c'est-à-dire entre le père et la mère.
Mais écoutez, je me demande en même temps si j'ai cherché de trouver une place. Je pense que très tôt dans la vie, j'ai plutôt essayé de chercher à me trouver moi-même, de savoir qui je suis, de pouvoir répondre aux exigences d'une vie un peu anormale au sens, après tout, on était juif dans cette communauté. Et donc, à ce moment, on apprend aussi à être différent, à être autrui pour les autres. Je décris ça. En fait, on était une sorte de communauté fermée, comme un monde dans un autre monde. Et ça non plus, ça ne va pas de soi. Et puis, à trouver la place de cette famille un peu bizarre que nous étions, mon père et moi. Et ensuite, comprendre aussi mon père. Mon père était un personnage qui était curieux parce que, à la fois très narcissique et à la fois très désarmé. Je pense qu'il ne savait pas exactement ce qu'il voulait dans la vie. Il était comme ça tiré entre le plaisir qu'il cherchait, si je veux dire, et aussi ce sens du devoir. C'était un homme qui avait le sens du devoir. Donc, il devait gagner sa vie, il devait s'occuper de moi. Et je suppose que on n'apprenait pas aux pères ou aux hommes à ce moment-là de s'occuper des enfants. Et il était très maladroit.
Alors, dans cette nouvelle réalité, donc votre mère est partie, vous venez de nous le dire, vous ne la reverrez pas pendant une vingtaine d'années. Vous déménagez une nouvelle fois, pourrait d'ailleurs t'en dire. Vous allez à Bessarabeasca, je ne sais pas si la prononciation est bonne ou évoque quelque chose aux amis roumains qui nous écoutent. Où est-ce par rapport à Cagoule?
Mais Bessarabeasca, c'est plus au nord et c'est plus près de la Russie. Et c'était un village dont je me souviens seulement qu'il était assez plus pauvre que Cagoule. On était plus isolés. Mais je me souviens surtout de la boue. De la boue de printemps. Parce qu'il y avait une terre grasse et noire. Et quand le printemps arrivait, les pluies, la neige qui fondait, à ce moment-là, on pataugeait. Et Bessarabeasca, pour moi, c'était ça. C'est la boue. Mais en même temps, on avait changé de gouvernante et c'était une femme qui était d'origine grecque, très volubile, très actrice, enfin quelqu'un qui racontait sa vie à tout le monde, qui réussissait à charmer, à séduire toutes les autres femmes. En leur racontant ses amours, ses aventures, etc. Mais c'était une femme en même temps très cultivée. C'est elle qui, pour la première fois, m'a appris des mots de français. Et elle avait une très grande influence sur mon père, je pense parce qu'ils étaient amants, mais aussi parce que elle avait l'air un peu sorcière. C'était, je crois d'ailleurs qu'elle faisait elle pratiquait des rituels de sorcière et ensuite elle prédisait l'avenir. Comme elle était grecque, elle prédisait l'avenir des gens dans le marc de café.
Alors, nous reviendrons à cette femme dans un instant. Avant, je voudrais quelques précisions sur le monde paysan de l'époque. C'est un monde qui est un monde difficile, qui est un monde ardu, qui est un monde austère. Les paysans sont généralement pauvres.
C'est très, très pauvre. C'est très, très pauvre. C'est des gens qui travaillaient vraiment jour et nuit. Qui mangeaient très très peu. On tuait le cochon à Noël et puis on vivait sur ça pratiquement tout l'hiver. Voyez une autre scène dont je me souviens, c'est cette pièce dans laquelle tout le monde vivait, hein, dans la maison paysanne, surtout l'hiver. Il y avait une sorte de plateau qu'on chauffait, hein, et sur lequel on faisait la cuisine, où on dormait. Hein.
C'est un monde qui vous touche ?
Oui, c'est un monde qui me touche parce que, en même temps, c'est un monde de grande sagesse, mais c'est un monde de grande sensibilité. C'est un monde où la vie émotive, les peurs, les violences sont permanentes. C'est contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un monde sec, c'est pas un monde passif, c'était un monde bouillonnant et un monde très sensuel. Je reviens sur, parce que je pense que s'il y a une chose qui m'est restée, c'est cette sensualité, ce rapport à la fois à l'animal et à la terre.
Ce qui est assez paradoxal, c'est que l'argent que gagnent ces paysans revient très généralement aux riches propriétaires qui vivent soit à Bucarest, soit même à Paris pour certains.
Oui, oui, ça c'est très connu. Le paysan roumain était extrêmement exploité. Il y avait une pauvreté inimaginable aujourd'hui. On vivait de très très peu. Et comme je le décris dans le livre, la mort d'une personne, c'était une moindre catastrophe que la mort d'une bête. Parce que la bête, on dépendait.
Alors vous l'évoquiez tout à l'heure avec l'image de cette gouvernante qui s'appelle Iliana. Oui. Le monde paysan est également donc le monde de la magie, le monde de la superstition.
Oui.
Et il a laissé des traces visiblement très fortes sur le jeune garçon que vous êtes.
Oui, je suis toujours un peu superstitieux. Je crois toujours à certaines formes de miracles dans la vie. Parce que, en fait, un monde impuissant agit par la magie. Et on croit pouvoir prédire, diriger sa vie par des moyens extraordinaires, parce que les moyens ordinaires sont absents.
Was lust dein Herz, das kennst du kriegen, am Amelie-Gele, Apastramele, Akarnazele, Unagle.
C'est à votre gouvernante Iliana que vous devez de faire des études.
Oui, parce que quand nous sommes partis à Bessarabiasca, j'étais déjà à la fin du cours de l'école primaire et il fallait savoir ce qu'il fallait, ce, qu'est-ce qui va suivre, qu'est-ce que je vais faire. Et à ce moment-là, ce n'était pas automatique. Si vous voulez, une fois on finit l'école élémentaire, on va suivre l'enseignement du lycée, etc. Et mon père, lui, voulait que j'apprenne un métier. Il ne voulait pas que je fasse ce qu'il fait parce qu'il trouvait ça trop dur, trop incertain. Et il avait cet idéal Il pensait qu'un garçon devait apprendre un métier parce que c'est le métier. Si on a un métier, à ce moment-là, on est sûr de faire quelque chose dans sa vie. Et il avait raison d'une certaine façon parce que faire du commerce, il a été représentant quand il était jeune, etc. Tout ça, c'est très, très incertain. On est un peu un Luftmensch, ce qu'on a appelé ça. Et donc, il voulait que j'exerce un métier, que j'apprenne un métier. Et moi, je ne voulais pas. Moi, je voulais continuer. Je ne sais pas pourquoi je m'étais identifié à lui, ou peut-être à mon grand-père, ou peut-être parce que j'aimais cette vie de la terre. J'aimais vivre dans ces petits villages, ces petites villes. Je voulais faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire j'aurais aimé continuer. Et alors, cette Iliana, qui, je vous dis, elle s'intéressait à moi, enfin, c'est-à-dire...
Enfin.
Oui, s'intéressait à moi, à mes études. Elle me prenait un peu le français. Et elle pensait que j'étais intelligent. Et donc, elle a dit à mon père, il faut pas que j'apprenne un métier. Et elle lui a dit, mais tu devrais l'envoyer au lycée. Et ça, disons, m'envoyer au lycée, ça, c'était une sorte de solution de compromis. On verrait par la suite ce qui va arriver. Moi, je ne voulais pas. Mais finalement, ça m'arrangeait mieux. Donc, je n'étais pas obligé d'aller apprendre un métier comme mon père le voulait. Et puis, j'aurais vu par la suite. Et alors, il se met d'accord sur un compromis qui consistait à ce que j'aille au lycée, mais pour devenir ingénieur naval. Je ne sais pas pourquoi être ingénieur représentait à la fois quelque chose de l'ordre intellectuel, mais aussi un métier. Et je suppose que naval, c'est parce qu'elle était grecque. Et que... mon père, qui ne savait rien, bon, il lui faisait confiance. Mais il faisait confiance surtout à son pouvoir magique, parce qu'il voyait, il pensait qu'elle prédisait mon avenir. Vous voyez, ça, c'était très, très important dans son acceptation. Et donc, c'est un peu pour ça que je suis devenu intellectuel, enfin, c'est-à-dire... Donc, j'allais continuer à étudier.
Alors, dans le prochain épisode, nous verrons qu'une histoire de cœur de votre père, décidément votre destin est intimement lié à celui des histoires de cœur de votre père, vont vous conduire à déménager à nouveau. Vous allez pour la première fois avoir des souvenirs d'Hitler qui datent de cette période et sera en 1935. Et puis, on fera également dans un prochain épisode une rencontre assez extraordinaire avec votre tante qui s'appelle Tanti Anna et qui est la sœur de votre père.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.